Lights, camera, action!
Aujourd'hui à l'émission, Don't Tell Mom the Babysitter's Dead, Moxie et Wonder Woman. Bienvenue à On Jase de Films. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy à Saint-Cyr, on jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Good, the Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois l'autrice, essayiste et scénariste India Desjardins. Bonjour India.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va, mais on s'entend là que... Tu sais, moi, là, les listes, là, ça m'angoisse,
OK?
On dirait que quand tu dis trois coups de cœur, je suis comme, OK, oui, trois coups de cœur, mais c'est pas mes trois coups de cœur à vie, là. Tu sais, il a fallu que je choisisse, qu'on choisisse une discussion.
Ouais.
Tu sais, bon, je veux pas avoir l'air que ce soit les trois films de ma vie, là. C'est juste pour le plaisir de la discussion.
Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, non, non, puis les gens comprennent, là. Souvent, c'est ça, c'est...
Ben, les listes, moi, ça m'angoisse. Là. C'est quoi tes trois films préférés de ta vie ou les... Ah, non, je suis pas capable.
Mais tu sais, ça fait un peu plus qu'un an que je fais ce projet-là. Puis des gens me disent, ah, tu devrais faire ton épisode avec tes coups de cœur. Tes
enfants.
Je suis pas capable. J'arrive pas à trouver les trois films dont je voudrais parler. Puis j'arrive pas. Tu sais, ça change à toutes les semaines.
C'est drôle que tu me dises ça parce que. Quand j'écoutais ton podcast, je cherchais l'épisode où toi, tu avais fait justement ta liste à toi, tu sais. Mais tu vois, c'est pour ça que quand tu m'as écrit, j'étais là, mon Dieu, mes trois coups de cœur, mais je ne trouverai jamais ça. Mais là, on a décidé de parler d'un sujet en particulier. Ouais. C'est ça qui a créé ma liste, tu sais.
Oui, sujet motivé, entre autres, par ton livre « Mr. Big » que tu as écrit. « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques », donc ça reviendra beaucoup dans la conversation.
Ouais.
Ce que tu dis dans ce livre-là, des réflexions que tu amènes, tous les films que tu as choisis sont portés en partie par des éléments qui sont dans ton livre.
Exactement.
Pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, tu as écrit longtemps au magazine Cool et Clin d'œil, mais on te connaît surtout pour la série des romans Aurélie Laflamme de 2006 à 2018. C'est 9 tomes en tout. Entre autres, scénarisé les deux adaptations d'Aurélie Laflamme au cinéma. Et je viens de le dire, plus récemment, en 2021, tu as fait paraître Mr. Big. La jeunesse, l'adolescence, ça fait partie d'à peu près tout ce que tu écris, où ça revient énormément. Tu sais, juste parler du magazine Cool, parler d'Aurélie Laflamme. Dans Mr. Big, il y a beaucoup de films pour ados. Ça aussi, ça va revenir juste dans les films que j'ai nommés au début. Il y a beaucoup d'adolescence, il y a beaucoup de trucs jeunesse qui sont là. T'as grandi dans les années 80, 90, une époque foisonnante pour le cinéma. C'est quoi les films qui t'ont marqué en grandissant?
Ben, tu sais, moi, c'est sûr qu'il y a tous les films de John Hughes. Mm-hmm. Le premier film, là, moi, là, je pense que mon premier film là, que j'étais allée au cinéma puis que, tu sais, ça a changé ma vie, là, tu sais, puis je pense que c'est pas mal de monde de mon âge, c'est comme ça, là, mais c'est E.T. Mm. Moi, je suis allée voir E.T. au cinéma, ça a été mon premier film de cinéma. Première fois que je vais au cinéma, c'est E.T. Puis je demandais tout le temps à ma mère de retourner. Je voulais retourner au cinéma. Si j'avais eu un fils, je l'aurais sûrement appelé Elliot. Ma sœur, elle a appelé son fils Elliot. Tu sais, c'est comme... Puis je l'ai regardé l'été passé, E.T., là. Puis quand E.T., à un moment donné, il sort des buissons,
mm-hmm.
puis il crie. Puis ça, moi, ça m'avait traumatisé comme scène. Mais aujourd'hui, j'ai 43 ans, OK, je me suis caché les yeux. Puis après ça, j'étais là... Écoute, cette scène-là, tu la vois, puis je ne comprends aucunement comment j'ai pu avoir peur. Puis c'est vraiment... Puis en fait, j'ai remarqué à quel point, en le réécoutant avec mon regard d'adulte, à quel point c'est un chef-d'œuvre, ce film-là, tu sais. Parce que, tu sais, il y a un moment donné, tu as tous les hommes qui rentrent dans la maison d'Eliott mm-hmm. pour pogner E.T., là, qui est malade. Puis ils ont toutes des ils ont tous les costumes des cosmonautes américains.
Ouais.
Alors que ça, tu vois que c'est totalement l'imagination d'Eliott, mm-hmm. parce qu'ils ont juste le costume, dans le fond, de... Comment on appelle ça, là, pour...
Ouais, une espèce éviter... de saut antinucléaire ou quelque chose comme ça, là.
Oui, tu sais, pour éviter de pogner des bactéries, dans le fond. Mm-hmm. Mais la première fois qu'ils rentrent, ils ont le costume de cosmonaute, ce qui n'a aucun rapport. Puis il y a plein d'affaires comme ça que j'ai remarqué. Et ce film-là, il n'y a presque aucun dialogue.
Ouais, c'est vrai.
C'est 2h15 où c'est quasiment tout muet. Mm-hmm. Puis là, j'étais là, ben voyons, moi, quand j'étais petite, que j'avais de la misère à garder mon attention sur quelque chose, j'ai été envoûtée par ce film-là qui est presque entièrement muet. Tu sais, ouais. C'est vraiment... C'est... Mais ce film-là, ça a été marquant pour moi. Ça... Puis ça a été marquant pour plusieurs personnes aussi. Puis j'avais mon toutou E.T. Puis, tu sais, c'est comme... Je pleure encore, là. Tu sais, quand je l'ai écouté cet été, je pleure encore. Mais bref, c'est ça.
Je peux pas regarder E.T. sans verser des larmes à la fin. Puis... C'est tellement touchant quand il retourne sur sa planète, puis tout le monde pleure. C'est criant de vérité comme maman, même si c'est un bonhomme en plastique sur le plateau, mais on y croit, il est là, il existe pour vrai. Puis ouais.
Puis il y a tellement de choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'accepte plus comme public. Comme là, E.T. il se fait un téléphone avec plein d'objets hétéroclites, tu sais. Puis... À ce moment-là, on y croyait un peu comme Weird Science. Là. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as vu le film Weird Science, c'est ça, de John Hughes.
Oui, on revenait un peu là-dessus aussi.
Les gars, ils branchent une Barbie, ils font quelques codes à l'ordinateur, puis là, tu sais, ça se c'est impossible, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Ouais. Les gens, ils vont dire, ben voyons, ça, c'est comme si on fait de la science-fiction, mais il faut que scientifiquement, ça se tienne. Même si on prend même si on invente des histoires, il faut que ça aille plus loin pour que notre cerveau accepte la convention de la magie dans un sens.
Ouais.
Puis d'ailleurs, moi je lis un livre là, de scénariste, c'est ma bible de scénariste, OK?
OK.
C'est Save the Cat. OK, je le recommande là, Save the Cat. Puis, il donne plein de trucs de scénarisation, là, ce monsieur-là. Puis, souvent, j'analyse les films un peu avec sa méthode. Puis, lui, il dit tout le temps que dans un film, c'est très difficile d'accepter deux magies. Mmh. Tu es capable, en tant que spectateur, d'accepter une magie. Mais quand il y a une deuxième magie, c'est là que tu décroches.
Ah,
comme par exemple, tu sais, aujourd'hui, mettons, E.T., bon, on accepte la magie de l'extraterrestre qui arrive sur Terre. On accepte très moins la deuxième magie de l'espèce de téléphone qui se construit, tu sais.
Ouais.
Fait que, puis il y a plusieurs magies dans E.T., tu sais, il guérit avec, tu sais, il est guérisseur.
Ouais. Il a télépathie d'une certaine façon, il contrôle les objets. C'est un être qui capable de beaucoup de choses.
Ouais, c'est
peut-être
ça.
Peut-être trop de choses pour nos standards actuels, effectivement.
Il y a comme un peu trop de magie dans E.T.
Ouais. On va revenir avec un film terre-à-terre, plus ou moins, parce que ça implique quelqu'un qui meurt de manière un peu bizarre, mais Don't Tell Mom the Babysitter's Dead.
Oui, c'est...
Un film de 1991 de Stephen Herrick qui met en vedette Christina Applegate, Joanna Cassidy, John Getz et David Duchovny quelques années avant qu'il se lance dans les théories complotistes.
C'est vrai, il est là-dedans. Écoute, pourquoi j'ai choisi ce film-là, c'est que, bon, mon livre, il parle dans le fond de la glorification des amours toxiques en fiction, puis je me questionne sur la colonisation de notre imaginaire à travers mon livre. Je me dis, est-ce que les œuvres qu'on écoute peuvent avoir une incidence sur certains de nos comportements? Puis, pour étayer mon argumentaire ou pour moi-même faire des recherches, parce que j'avais vraiment envie de faire une recherche honnête, c'est-à-dire que j'avais la question, puis j'avais une hypothèse, mais je voulais aller chercher une réponse, tu sais, à travers ce que je vois, mais à travers la science aussi, est-ce que ça a été étudié, si ça peut avoir une incidence et tout ça. Et je me suis retapée plein de films de mon adolescence. Tu sais, quand on parle de films qu'on n'a pas vus, même de films qu'on n'a pas vus il y a deux ans, tu as vu un film, ça a laissé une impression sur toi, tu en parles aujourd'hui, puis il y a probablement plein de choses que tu as oubliées. Mm-hmm. Mais imagine quand ça fait 20 ans que tu n'as pas écouté un film. Ouais. Fait que là, j'ai revu plein de films comme ça qui m'ont construite non seulement en tant que spectatrice, mais en tant que personne. Je suis allée retourner dans mon adolescence, dans ma jeunesse, tout ça. Et j'ai découvert plein d'éléments que j'avais jamais remarqués ou même que j'avais oubliés. Mm-hmm. Des conversations de viol banalisées, j'ai découvert vraiment des affaires. J'ai découvert que, tu sais, j'ai remarqué pour la première fois qu'il y avait pas beaucoup de personnages féminins, que tout ce qui a participé à me construire moi comme personne, bien, c'était tout le temps des histoires de garçons dans des mondes de garçons où est-ce que des fois il y a une fille puis que la fille, ben tu sais, des fois c'est surtout un cadeau pour le héros ou des choses comme ça. Puis ça, vraiment, découvrir ça, ça m'a fait un petit peu mal. Tu sais, c'est comme si je me suis confrontée à, bon, c'est quoi que j'aime comme c'est quoi que j'aimais comme film. Puis ça m'a fait un petit quelque chose, tu sais, ça m'a dit, ah, tu sais, c'est comme si les adultes qui écrivaient des films pour moi, finalement, n'étaient pas si bienveillants que ça envers moi comme fille, même quand c'était une fille, le personnage principal. Donc, tu sais, puis dans mon livre, je parle de 16 Candles, entre autres, où il y a justement des conversations sur le viol banalisé, un viol, du harcèlement sexuel, tout ça. Fait que j'étais vraiment dans une passe là, de recherche de mon livre où j'étais vraiment découragée de ce qui m'avait marqué comme enfant ou comme adolescente. Puis là, j'ai pensé à ce film-là, Don't Tell Mom de Babysitter's Dead, qui était un film qui passait pas souvent à la télé, parce que, tu sais, dans ce temps-là, c'était les clubs vidéo. Ouais. Moi, dans ma jeunesse, là, c'était, tu sais, au début, mon premier appareil vidéo, là, c'était un bêta, là, tu sais, okay. Juste pour te dire, là, ça a duré 2 ans, puis bon... Puis, c'est ça. Fait que Don't Tell Mom, il n'était pas au club vidéo, puis il passait juste une fois de temps en temps à la télé. Contrairement à certains films comme Les Goonies, que ça passait tout le temps, ou même 16 Candles, qui en français, c'était L'amour à 16 ans, ça passait souvent. Bref, j'ai décidé de réécouter Don't Tell Mom, puis j'avais peur, parce que, comme je te dis, tu sais, comme dans ma bibliothèque, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'agressions sexuelles banalisées, tout ça. Juste pour dire, là, tu sais, comme parenthèse, là, peut-être que les gens ils comprennent pas nécessairement ce que je veux dire. Puis là, je parle trop à... Tu l'as lu, mon livre, fait que tu sais de quoi je parle, mais comme un exemple, dans 16 Candles, à un moment donné, deux gars parlent. Puis là, il y en a un qui dit à l'autre, « Ouais, Caroline est saoule, puis elle dort dans la chambre, je pourrais la violer 10 fois si je veux. » Puis là, l'autre gars, il dit, « Ben, qu'est-ce que t'attends? » Puis là, l'autre gars, il dit, « Ah, oh, elle est pas bien fine ces temps-ci, tu sais. » Puis moi, ça m'a vraiment marqué, parce que quand tu regardes ça comme adulte, tu dis, « Elle est pas assez fine pour se faire violer. » Voyons, John Hughes, tu sais, comme ça va la tête, tu sais. Fait que, puis tu sais, John Hughes, là, c'est celui qui a écrit et réalisé la plupart des films de ma jeunesse à moi. Il est comme reconnu comme le king des films pour ados. Genre, le gars que personne n'a jamais réussi à faire ce qu'il a fait. T'sais. Puis quand tu regardes ces films, finalement, tu te rends compte de beaucoup de... que les personnages féminins sont vraiment pas bien traités, qu'il y a beaucoup de phrases misogynes, d'allusions à des agressions sexuelles. Donc, bref, moi, j'étais un peu contaminée par tout ça.
Ouais.
Et là, je décide de regarder Don't Tell Mom de Babysitter's Dead. Et donc là, l'histoire, c'est une mère qui s'en va travailler à l'extérieur pour l'été. Elle a 5 enfants. Puis, elle décide d'engager une gardienne pour les garder pour l'été. Elle lui donne un montant d'argent, elle lui donne les instructions. Puis là, ben, les 5 jeunes, ils se disent, ah, on va passer l'été à avoir du fun, puis tout ça. Mais là, au bout de quelques heures, la gardienne meurt. Mm-hmm. Et là, les jeunes, ils décident d'aller la porter anonymement dans un centre, tu sais, mortuaire. Ouais. Et là, la plus vieille, ben les deux plus vieux, ils décident de tirer à pile ou face pour savoir c'est qui va se trouver une job pour aider toute la famille parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont oublié l'argent dans les poches de la gardienne. Fait qu'ils n'ont pas d'argent, il faut qu'ils s'occupent, ils ne veulent pas appeler leur mère parce qu'ils veulent avoir un été libre de leur mère. Fait qu'elle, la plus vieille, qui s'appelle Sue Ellen, elle se trouve une job. Et là, elle essaye de s'occuper de sa famille. Puis c'est comme, ça va être un peu comme un « coming of age ». Mais c'est ça, ça va développer comme un sens des responsabilités puis ouais. aussi une complicité avec ses frères et sœurs. Puis dans mon livre, ce que je dis, c'est que j'ai été surprise par ce film-là parce que, un moment donné, il y a comme du harcèlement sexuel, mais c'est dénoncé.
Ouais.
La fille, à sa job, elle a une bosse plus vieille qu'elle, mais habituellement, comme fille, ce qu'on reçoit, c'est que quand il y a une madame plus vieille, elle est tout le temps jalouse de la plus jeune. Tandis que là, au contraire, elle l'encourage. Quand Sue, qui est la personnage principale, elle s'en va lui dénoncer l'agression sexuelle, la madame la croit, mm-hmm. sa bosse la croit. Il y a une relation amoureuse dans le film. La relation amoureuse est super saine. C'est un film avec plein de belles qualités de raconter mm-hmm. une histoire avec des enjeux qui sont là, mais que les résolutions de conflits sont saines. Mm-hmm. Puis ça m'a vraiment surprise parce que c'est un film, comme tu dis, de 1991. Puis là, c'est pour ça que dans mon livre, quand j'ai regardé ce film-là, j'ai commencé à faire des recherches sur les créateurs. Puis là, j'ai vu que les deux scénaristes, c'était une fille qui s'appelle Tara Eisen mm-hmm. et l'autre gars s'appelle Neil Landau. J'ai plus fait des recherches sur la fille. Neil Landau, il a écrit d'autres affaires après, mais ça ressemble pas tant à Don't Tell Mom. Mais Tara Eisen, elle a plus vraiment écrit de choses après. Mm-hmm. Parce que ce qu'il faut raconter, c'est que Don't Tell Mom, ça n'a pas eu des gros succès au box-office, ce qui explique pourquoi on ne l'a pas vu souvent, puis ça a eu des très mauvaises critiques.
Ouais.
Entre autres, on disait que c'était une fantasmagorie d'adolescente, ce qui m'a vraiment oui. fait rire, parce qu'à cette époque-là, il y avait juste des fantasmagories d'adolescents.
D'adolescents. Oui, oui. C'est comme si Back to the Future n'était pas une fantasmagorie d'adolescents.
Les c'est... Goonies! Les
Goonies, c'est entièrement ça.
Tout ça, oui. Puis elle, la fille, là, sa fantasmagorie d'adolescente, là, c'est de vouloir réussir dans le monde de la mode, de dénoncer une agression sexuelle, puis d'être crue, de ne pas vivre dans un monde où les femmes sont rivales. Je me dis, en quoi que cette fantasmagorie d'adolescente n'est pas valide? Il y en a une, laissez-nous là, s'il vous plaît. En tout cas, donc c'est ça, Tara Eisen, elle a écrit en 2015 un essai qui s'appelle « Reeling Through Life ». Des fois, je l'ai à côté de moi. Parce que
Reeling Through Life, How I Learned to Live, Love and Die at the Movie.
Oui, tu vois, tu vois à l'envers, là, mais c'est tellement bon son livre, là, parce qu'elle raconte toutes des choses qu'elle a enregistrées, dans le fond, par le cinéma. Puis moi, je trouve que... Moi, j'adore les essais de créateurs parce que on dirait que pour moi, ça m'aide à comprendre leur création. Mm-hmm. Puis elle, dans le fond, ça m'aide à comprendre que si elle... Même si tu n'as pas les mots, tu sais, comme moi, Mr. Big, quand j'ai écrit ce que j'ai écrit avant, même si je n'avais pas les mots, c'était quand même des impressions que j'ai couchées sur papier. Mais elle, j'ai l'impression que c'est la même chose. Son film, elle l'a écrit en 1991. Son essai, elle l'a écrit en 2015. Mais pour moi... C'est parce que tu as ces impressions-là que tu écris d'une façon. Puis mm-hmm. elle, dans le fond, croyant probablement que le cinéma avait des effets sur elle, bien probablement que quand elle a écrit une fiction qui concernait une adolescente, bien elle a voulu comme montrer le monde comme elle voudrait qu'il soit, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça, dans le fond, que j'ai aimé. Je parle sûrement trop, hein? Ça fait déjà 40 minutes.
Non, c'est parfait, c'est parfait. mais c'est ça, puis... Tu sais, en fouillant un peu sur le film, je me suis rendu compte que, bon, c'est une production HBO, donc déjà, c'est fait pour une chaîne câblée, ça n'a sûrement pas eu une sortie au cinéma, mais ça témoigne... Jamais je croirais que les auteurs sont, sont allés voir, sont juste allés voir HBO pour faire le film. Ils sont sûrement passés par toutes les boîtes de production, comme c'est coutume aux États-Unis, comme c'est coutume partout quand tu veux vendre un film. C'est particulier parce que c'est quand même un film qui sort à l'époque où les films pour ados, ça cartonne justement par John Hughes. C'est un scénario comme celui-là, c'est pas loin d'être ce qu'on s'imagine être un film à la John Hughes.
Sortait
à la télé. Donc, que ce film-là ait abouti sur une, à l'époque, HBO qui était
tablette.
C'est ça, qui est une petite chaîne câblée. Sûrement que ça a été. Sûrement que ça a sorti en vidéo au Québec, au Canada, aux États-Unis. Fait que oui, c'est un film qui ont, entre guillemets, peut-être voulu cacher. En tout cas, c'est un film qui n'a pas pu avoir un succès comparativement aux autres films. J'ai pas vécu les années 80, je ne sais pas comment The Breakfast Club, 16 Candles ou Weird Science étaient reçus. On reparle de Fantasmagorie adolescente, Weird Science, on ne peut pas aller plus loin que ça. Là.
Non, tu sais, puis souvent, ça a des bonnes critiques, ces films-là. Là. Tu regardes, ouais. Là, souvent, ça a des bonnes critiques. Là. Fait que c'est ça. Puis moi, je me dis... Puis elle n'a jamais retravaillé vraiment après. Puis ça, j'ai beaucoup fait de recherches là-dessus aussi sur comment ça fonctionne quand tu es une femme à Hollywood qui fait du cinéma. Puis, tu sais, je pourrais t'en reparler pour Patty Jenkins, pour Wonder Woman, mais, tu sais, quand tu n'as pas de succès, dans le fond, tu ne retravailles pas.
Ouais.
Donc, puis même quand tu en as un, c'est difficile. Tu sais, comme la réalisatrice de Twilight a raconté qu'après le premier film qui a cartonné, elle n'a même pas été considérée pour faire le deuxième.
Ouais.
Tu sais, c'est comme... C'est vraiment difficile de faire sa place comme femme au cinéma. Mm-hmm. Donc, elle n'a pas réécrit d'autres films. Puis, tu sais, moi, je me dis, il me semble que pour les adolescents, pour les adolescentes, ça aurait pris plus de filles qui nous écrivent des histoires. Parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est que, tu sais, tu regardes tous les films de princesses, ouais. C'est des messieurs qui écrivent ça. La plupart des films avec des personnages féminins, tu sais, bon, c'est des films de John Hughes, donc c'est écrit par un homme, puis ça, c'est dans la jeunesse, là.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, c'est dommage parce que, tu sais, dans le fond, quand, tu sais, vous, les garçons, ben vous avez plein de personnages différents, écrits par Stephen King, écrits par John Hughes. Vous pouviez vous reconnaître dans plusieurs héros, plein d'aventures, plein de différentes personnalités. Puis nous, finalement, les héroïnes qu'on avait, ils étaient toutes un petit peu bâties sur le même moule, avec la même quête de vouloir une espèce de gars pas gentil, populaire.
Ouais.
Puis, tu sais, tu me disais, la jeunesse, tu sais, ça a l'air important pour toi, mais oui, parce qu'on dirait que j'ai quelque chose à réparer, non seulement comme spectatrice, mais ce que j'ai voulu offrir quand j'ai commencé à écrire pour les jeunes, j'ai voulu offrir quelque chose que moi, j'avais pas eu, tu sais.
Mm-hmm.
J'ai voulu offrir un personnage féminin fort, dont la quête était de trouver sa place dans l'univers beaucoup plus que de trouver un gars populaire ou whatever. T'sais. L'amour, ça peut faire partie de l'histoire, mais ce n'est pas ça la quête principale.
Ouais. Par rapport à ces réflexions-là, je t'ai envoyé avant l'émission un texte de Molly Ringwald qui jouait dans les films de John Hughes, qui, j'ai l'impression, a eu le même genre de réflexion que toi quand elle a commencé à montrer ces films-là à sa fille en se disant « c'est-tu vraiment le modèle ?» que je veux que ma fille ait en grandissant, puis sans remettre en question le talent de John Hughes, sans remettre en question, remettre en question le contenu des films et fier de les avoir faits, mais on sent que ce chemin-là, elle l'a fait aussi comme toi, puis comme Tara Eisen.
J'ai beaucoup aimé ce texte-là que tu m'as envoyé. Là,
je le mettrai en lien pour les auditeurs et les auditrices. Là,
ben, ce que j'aime, c'est que elle a un cheminement, tu sais.
Ouais.
Elle a une quête, elle se questionne sur l'effet que ça a pu avoir, lui, pourquoi il écrivait ça, elle, son apport là-dedans. Mais elle continue d'aimer ces films-là, à voir aussi que ces films-là ont pu avoir une incidence positive, puis à aimer John Hughes. Puis moi, c'est un peu mon approche. C'est-à-dire que même si je remets en question certains contenus. Je ne remets pas nécessairement en question le créateur ni ses intentions. Moi, je pense que chaque époque a son angle mort. Puis, tu sais, je veux dire, moi, comme créatrice, mon premier livre, j'ai glorifié un amour toxique, j'en parle dans mon livre. Puis, tu sais, je peux pas m'en vouloir de pas avoir... Mon questionnement, ce que je racontais comme histoire, c'était sincère, tu sais. Mm-hmm. Puis elle, c'est un peu ça qu'elle dit sur lui. Elle disait, il écrit des choses magnifiques. Les jeunes ont pu découvrir des choses sur leur propre identité en regardant ces films-là. Mais en même temps, lui, il avait des angles morts. Puis, mm-hmm. tu sais, malgré le fait qu'elle remet beaucoup de choses en question, dont les conversations sur le viol, dont les viols banalisés, tout ça, elle dit qu'il y a eu aussi des répercussions positives de ces films-là, comme entre autres Breakfast Club. Elle parle entre autres d'un de ses amis qui a découvert son homosexualité, il me semble, puis que parce que dans Breakfast Club, la conclusion, c'était qu'on avait chacun notre identité, mm-hmm. que lui, ça l'a aidé. Donc, malgré tous les défauts du film, lui, ça l'a aidé à trouver sa propre identité. Puis ça, il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais je pense qu'on peut aimer une œuvre tout en essayant de voir ce qui était problématique, mm-hmm. la remettre dans son contexte. Mais moi, ce que je trouve qui est le problème, c'est quand on répète certaines ouais. choses. Tu sais, puis il y a beaucoup de codes qui se répètent encore aujourd'hui. Puis moi, c'est ça que je trouve le problème. C'est pas que, mettons, dans les années 90, on faisait quelque chose, puis là, tu sais, de le regarder avec notre regard d'aujourd'hui, c'est facile de dire « Ah ouais, ça, c'est plus... » Puis là, on le remet dans le contexte, puis on se dit « Bon, dans ce contexte-là, on n'était pas ouvert sur ces enjeux-là. » Mais quand on voit les choses se répéter aujourd'hui, c'est là que moi, je me dis, OK, remontons dans le temps. Là. Ça existait là, en 1995. Ouais. Peut-on, en 2021, passer à d'autres choses?
Oui, oui, tout à fait. On va faire un saut dans le temps maintenant avec une œuvre encore toute fraîche, Moxie, un film de 2021 réalisé par Amy Poehler. Qui met en vedette Hadley Robinson, Lauren Tsai, Alicia Pasquale Peña, Nico Hiraga, Patrick Schwarzenegger, oui, le fils de, Amy Poehler est là, et Marcia Gay Hayden en tant que directrice qui, elle, a pas juste des angles morts, je pense qu'elle fait de l'aveuglement volontaire.
Ouais.
C'est quoi Moxie? Ça raconte quoi?
Ah, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'histoire, dans le fond, de Viviane qui, grâce à une nouvelle amie à son école et un peu à des conversations avec sa mère, se découvre une fibre féministe et décide un peu de changer les choses à son école. Ce que j'ai trouvé extraordinaire de ce film-là, c'est que ça prend le public par la main, puis ça explique un peu c'est quoi le féminisme d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qui est devenu le féminisme? Je ne me reconnais plus là-dedans, nanana. Puis là, les gens là, sont tous, ont toute l'impression là, que le féminisme, c'est devenu genre plein d'affaires éclatées qu'ils ne comprennent plus, alors que c'est la même affaire, c'est juste que c'est plus inclusif ou que on a élargi les... On s'est rendu compte que, mettons, le patriarcat avait beaucoup plus de répercussions sur la société que juste sur l'égalité homme-femme. Donc, c'est devenu un mouvement qui inclut beaucoup de choses sociales et que les luttes d'oppression devraient être menées, dans le fond, de front. Mm-hmm. Puis, c'est comme si ce film-là, j'ai l'impression que ceux qui sont mêlés sur le féminisme moderne devraient l'écouter parce que c'est comme, OK, bon, c'est là qu'on est rendu. Là. Ouais. C'est ça les préoccupations d'aujourd'hui, puis on voit tout ce que Viviane peut vivre en tant que militante, c'est-à-dire l'espèce d'espoir que ça change après ça l'épuisement, tu sais, puis moi, mm-hmm. moi, je dis au monde de lire, de regarder ce film-là en lisant le livre de Judith Lucier.
Oui, on ne peut plus rien dire
parce que, tu sais, elle explique un petit peu cet épuisement militant des fois. Puis, tu sais, Viviane, elle me faisait beaucoup penser à ça à un moment donné quand elle se fâche, tout ça. Je trouve que l'amour qu'elle vit avec le gars est sain.
Oui.
Tu sais, le gars, à un moment donné, ils ont un conflit, il met ses limites, il dit hey, « j'ai été gentil avec toi », puis là, tu sais, comme on dirait « j'ai pas aimé comment tu m'as traité ». Il lui dit respectueusement, puis après ça, finalement, elle va s'excuser. Tu sais, ça met en scène aussi une belle diversité, puis tu sais, on peut critiquer ce film-là en disant « bon, ben oui, il y a de la diversité, mais c'est pas chaque personne de la diversité qui a sa quête propre ». Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire, mais en même temps, je me dis, quand un film a... essaie tellement, tu sais, d'être inclusif, puis de mettre... Tu sais, il y a tellement de qualités. Soulignons les qualités. Oui. Tu sais, ça peut nous amener ailleurs, tu sais, justement. Puis j'ai aimé ça, que le personnage féminin puisse avoir une quête complète, c'est-à-dire c'est une découverte de soi, c'est une découverte d'avoir une cause, mais aussi, elle a le droit d'être amoureuse, puis elle a le droit de... Tu sais, souvent, on dirait que les personnages féminins, on se dit « Ah, c'est plate, fallait qu'elle tombe en amour. » Ouais, mais pourquoi? Oui. Tous les personnages masculins, là, ils ont un cadeau à la fin de pouvoir frencher une fille de force. Là, oui, oui. Pourquoi une fille ne pourrait pas avoir un amour sain? Là, mm-hmm. fait que j'ai adoré ce film-là. Ouais.
C'est un film, c'est pas long dans le film avant que ça m'ait frappé, mais... Quand on voit le comportement de la direction de l'école, quand on voit comment les personnes en position d'autorité, ceux qui tiennent ouais. le gros bout du bâton, comment ils agissent, qui ils cherchent à encenser dans l'école, qui ouais. cherchent à mettre de l'avant, et de voir tous les comportements qui sont balayés sous le tapis, je regardais le film, je me disais, mais c'est pour ça que des gens viennent à faire des listes pour dénoncer des agresseurs. C'est pour ça qu'on... Des femmes veulent pas passer par les méthodes entre guillemets traditionnelles pour dénoncer des comportements. Il faut adopter un comportement marginal pour obtenir ce qu'on veut. Puis, mais ce parcours-là est parsemé d'embûches. Puis le film le montre très bien. Puis à quel point elle, Vivienne, se perd là-dedans. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'à un certain point, c'est elle qui adopte certains comportements qui peuvent devenir toxiques par rapport à sa mère, par rapport ouais. aux ambitions de sa mère, entre autres.
Bien, parce que, dans le fond, elle développe la colère d'avoir une cause, tu sais. Mm-hmm. Donc, tu sais, moi, je dirais pas qu'elle va jusqu'à développer un comportement toxique parce que je pense qu'on peut écrire un conflit mm-hmm. sans que ce soit toxique.
Effectivement.
Puis, c'est dans la résolution respectueuse du conflit qu'on peut voir, tu sais, parce que, tu sais, dans le fond, toxique, ou, tu sais, mettons, ça va être dans une relation inégalitaire où quelqu'un essaie de montrer son pouvoir sur l'autre. Mm-hmm. Puis là, je pense qu'ils ont un conflit parce qu'ils ont de la misère à se comprendre, puis elle a la colère de sa cause, tu sais. Puis ouais. souvent, quand tu as une cause, tu sais, comme moi, mettons, là, je suis végane, OK? Ouais. J'ai passé par toutes sortes d'émotions par rapport à cette cause-là. T'sais. J'ai passé par le déni, mm-hmm. comme ben voyons, j'ai passé par la colère, voyons pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi on ne se rend pas compte que les animaux ils ont des sentiments, puis pourquoi on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire l'environnement à cause de l'agriculture, de là, comme bon, la colère. Puis à un moment donné, là, tu ne peux pas être tout le temps là-dedans. Perd là-dedans, tu sais. Fait oui, dans ce sens-là, ça peut être toxique pour toi-même, tu sais, parce que tu vis dans des émotions négatives, puis à un moment donné, il faut que tu acceptes, OK, c'est mon choix, ouais. puis tu sais, comme je vais essayer de le faire à plus petite échelle, tu sais. Puis elle, je pense que c'est ça qu'elle vit, Viviane, dans le féminisme, c'est-à-dire que dans le fond, elle vit par toutes sortes de phases, de se rendre compte de l'oppression, parce qu'avant, elle vivait dans l'acceptation que il y a une seule gang qui domine l'école puis qu'on ne peut pas les dénoncer. Mm-hmm. Puis à un moment donné, quand elle se rend compte de ça, elle n'est plus capable de fermer les yeux, elle n'est plus capable. Parce qu'à un moment donné, là, quand tu sais quelque chose, tu n'es plus capable de plus le savoir. Tu le sais. Fait que comment tu fais à partir de là? Fait que c'est ça qu'elle vit. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis il y a un bel hommage aussi au mouvement Riot Girl.
Ouais.
Moi, tu sais aussi, ça aussi, c'est les années 90. Là, fait que toutes les... les groupes punk, tu sais, de filles qui voulaient dénoncer, dans le fond, soit les boys bands ou les girls bands, mais créés par des hommes avec un regard masculin, dont les Spice Girls fait partie, tu sais, ça a été créé par des hommes avec un regard masculin sur ce que 5 stéréotypes de femmes devraient avoir l'air.
Oui.
Puis le mouvement Riot Girl, tu sais, qui était un mouvement punk, tu sais, comme Bikini Kill, il y a une toune qu'on entend là-dedans, là, tu sais, qui est géniale. Mais c'est ça, eux autres voulaient des bands féminins qui parlent, tu sais, dans le fond, de sujets qui touchent les adolescentes et les femmes pour pouvoir avoir leur voix, tu sais. Puis j'ai trouvé ça le fun qu'il y ait une espèce de clin d'œil, dans le fond, à ce mouvement-là.
Je faisais une timeline de certaines affaires, puis Don't Tell Mom est sorti en 91. Le premier Aurélie, La Flamme, est sorti en 2006 et ce film-là en 2021. Donc, 30 ans, 15 ans et 2021. Donc, ton livre est exactement entre les deux films dont on parle.
Ouais.
L'évolution du traitement des jeunes femmes, des adolescentes, sur ces trois générations, carrément, tu l'observes comment, en quoi Aurélie Laflamme, qui est entre ces deux époques-là, en quoi elle se rapproche de 91, en quoi elle se rapproche de 2021, puis en quoi elle est différente de ce qu'on peut voir dans ces deux œuvres-là?
Bien, tu sais, moi, je pense que j'ai mis dans Aurélie plusieurs de mes espoirs. C'est-à-dire plusieurs de ce que j'aurais aimé voir, moi, comme fille, comme spectatrice.
Ouais.
Par exemple, son premier French est avec consentement. L'autre chose, quand on voit, mettons, quelque chose, tu sais, comme à un moment donné, il y a un garçon qui fait un commentaire sur ses fesses. Tu as son regard à elle que ça la fait sentir mal, qu'elle veut cacher ses fesses après, que... C'est comme si je prenais un peu ce qui m'était montré, moi, comme spectatrice, puis je donnais un regard féminin dessus par Aurélie. Maintenant, en 2006, c'est sûr qu'on n'était pas ouvert à autant d'enjeux sociaux qu'aujourd'hui.
Ouais.
Si j'avais à l'écrire aujourd'hui, il y aurait peut-être des choses que j'écrirais autrement ou il y aurait peut-être des choses même que j'aurais même pas besoin de dire parce qu'on a fait du chemin depuis ce temps-là. Mais tu sais, ces temps-ci, je suis en train de relire Aurélie parce que, justement, tu sais, bon, des choses qui sont passées sous mon angle mort, je trouve qu'il y a certaines petites choses, des détails qui ont mal vieilli. Hein?
C'est un bel exercice, bravo.
Oui, c'est ça. Puis, je fais des petits changements. C'est vraiment pas... Je garde... Moi, je le prends comme un roman d'époque, là. Fait que je garde l'époque, je garde les références, mais, tu sais, des choses qui sont... mal dit ou des choses qui ont mal vieilli, je vais faire des petits changements pour les lectrices d'aujourd'hui. Parce que les lectrices d'aujourd'hui, ils naissent dans le monde d'aujourd'hui, ils naissent pas dans le monde de 2006. Fait qu'en 2006, ça pouvait avoir l'air progressiste, mais aujourd'hui, donc c'est pour ça que je le fais. Donc oui, je peux remarquer qu'à l'époque, on était rendu à une place X, puis que Moxie, bien, on est rendu à une place, tu sais, comme, oui, on est 15 ans plus tard, puis c'est le discours est poussé plus loin, puis c'est juste le fun de voir ça. Mais des Moxies, il y en a un dans une mer encore de films majoritairement masculins, majoritairement écrits par des hommes, parce que le milieu du cinéma est encore dominé par les hommes.
Ouais.
Donc, des Moxies, il y en a un parmi... Puis, je vois des améliorations, mais tu sais, je te parlais tantôt sur Messenger de Love and Monsters que j'ai écouté puis qui est bâti sur la même structure que le genre de film qu'on voit avec un gars qui est un underdog qui va faire des choses, développer son courage par amour, puis alors que la fille, elle s'intéresse pas à lui, bien, à la fin, il va pouvoir avoir le cadeau de la Frenchie même si elle veut pas, tu sais.
Ouais.
Ça, c'est un film qui est sorti en 2021. Donc, Donc, oui, des Moxie, ça existe, mais c'est pas, tu sais, on n'est pas à... Puis Moxie, encore une fois, comme Don't Tell Mom, les critiques sont beaucoup plus mauvaises que bonnes.
Ben c'est, oui, c'est, ben ça, c'est le fardeau. Il y a un film, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, qui est sorti en 2019, qui s'appelle Booksmart, réalisé par Olivia Wilde. Quel beau film sur des adolescentes. Puis, le film a beaucoup été comparé à Superbad. Puis même Superbad est un peu une incongruité dans le cinéma d'ado, même si ça se rapproche beaucoup de John Hughes. Là, mais bon, il n'y a pas la scène où les gars embrassent les filles à la fin puis ça vire bien. Là. Y a pas
cette... Mais ça rentre quand même dans la culture du viol, là, Superbad, selon moi.
Oui, oui, oui. Sur beaucoup d'aspects, oui.
Ouais.
Mais il y a Booksmart qui est sorti. Ou est-ce que ça... Oui, ça ressemble à Superbad, mais au final, c'est juste deux filles...
Ils
veulent avoir du fun une fois dans leur vie.
Ouais.
Puis même ça, ça leur est un peu enlevé au courant du film, malgré qu'ils ont des parents, qu'une a des parents plus progressistes, tout ça.
Ouais.
Mais même ce film-là a reçu certaines critiques négatives. Ça a l'air dur d'écrire des films, des livres, des œuvres qui s'adressent à des jeunes femmes, parce que j'ai l'impression que c'est toujours reçu comme si c'était pas sérieux, comme si ça pouvait pas être... Mais pas toujours, mais je pense que tu comprends où je m'en vais, là, mais c'est ça, c'est comme si c'était, c'est ça, c'est « Ah, ben c'est l'affaire de filles ». C'est comme si c'était l'affaire
B. De filles, ouais.
Ouais, c'est la face B de l'album.
C'est ça. Puis c'est plate. Tu sais, même moi, là, mes films, Aurélie, ben tu sais, c'est deux gars réalisateurs, mais honnêtement, j'avais demandé à des filles, puis les filles disaient « Je peux pas être associée à quelque chose de fille. » Tu sais, c'était pas une insulte envers moi. C'était juste... C'est que si tu commences ta carrière en faisant quelque chose comme, entre guillemets, de fille, ben tu vas être catégorisée de fille. Tu pourras plus faire d'autres choses. Fait que les filles ont en plus la pression de faire quelque chose qui est plus sérieux ou plus neutre ou plus... Tu sais, comme si, dans le fond, ce qui est masculin, c'est l'universel... Puis c'est la bonne affaire, mais quand c'est féminin, c'est girly, c'est... Puis moi, ben, j'ai travaillé fort. Quand j'ai sorti Aurélie pour la première fois, honnêtement, je pensais pas que ça pouvait intéresser les gars. Je le faisais pour les filles. T'sais. Je le faisais parce que je me disais, regarde, il n'y en a pas des affaires pour les filles, faites par les filles, puis... J'ai envie, moi, de le faire pour la petite moi que j'étais, tu sais. Ouais. Mais rapidement, je me suis rendu compte, ben pourquoi je dirais que c'est pour les filles? Pourquoi les affaires de gars, c'est pour tout le monde, mais que Aurélie, c'est pour les filles? Puis c'est comme si j'ai commencé à avoir une bataille avec moi-même puis avoir la réalisation que, hey, ça peut être... Puis les gars, quand je faisais des conférences dans les écoles, les gars levaient la main puis disaient, tu vas-tu écrire quelque chose pour les gars? Puis là, je disais, mais vous pouvez le lire. Aurélie, c'est une humaine. Tu sais, j'ai dit, à la limite, ça va peut-être vous permettre de comprendre plus le cerveau des filles, tu sais.
Oui.
Puis j'ai dit, tu sais, nous autres, les filles, là, on en lit des affaires avec des gars, là, puis on n'explose pas. Puis là, ça les faisait rire. Puis des fois, même, ça les libérait. J'avais fait cette conférence-là, à un moment donné, à New York, dans une école francophone. Mm-hmm. Puis il y a un garçon, là, après ça, il était à tous mes événements. Il est venu voir le livre, tout ça. Puis sa mère, elle m'avait dit, écoute, tu as comme ouvert une porte que lui, il ne pensait même pas qu'il avait accès à cette porte-là.
Ouais.
Puis c'est fou. Puis je suis en train de lire le livre « Pour l'amour des hommes » de Lise Plank. Mm-hmm. Puis elle parle un peu de ça, à quel point que pour nous, les filles, on a accès à tout. Mais c'est comme si les gars, eux, ils ont accès juste aux affaires de gars masculines, tu sais, que c'est très limité. Alors que pourquoi un gars pourrait pas lire Aurélie Laflamme?
Oui, oui. Puis tantôt, quand tu as parlé, tu as demandé à des femmes de réaliser puis qui ont eu peur d'être stigmatisées en tant que réalisatrice de films de filles, entre guillemets, tu sais. Dans ton livre, t'en parles encore quand tu parles de Catherine Bigelow qui a dû réaliser The Hurt Locker pour enfin avoir son Oscar du meilleur film, qui est un film hyper masculin où il y a à peu près pas de femmes, sinon aucune. Il y en a une, fait que déjà là, ça passe pas le test de Bechdel qu'une femme fasse un film comme ça. Il a fallu attendre 2021 pour qu'une femme gagne le score du meilleur film, la meilleure réalisatrice, avec un film où elle met en scène une autre femme. C'est...
Oui.
De 2009 à 2021, il n'y en a eu aucune femme qui a rien gagné pour des films faits avec des femmes.
Oui, c'est ça. Puis là, cette année, tu sais, là, mon livre est déjà désuet parce que je disais, il y a un Oscar de réalisatrice, mais en même temps, est-ce que ça veut dire que les filles vont avoir accès à tous ces prix-là dans les autres années? Puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'il y en a une qui a gagné, puis tout ça, que tu sais, que ça va être. Ça va pouvoir. Que ça ouvre, là. Tu sais, regarde 2009, puis là, on est en 2021. Fait que est-ce que ça va être à chaque année que ça va être tout mélangé comme ça? Tu sais, c'est quand même. Tu sais, selon moi, il reste quand même beaucoup de travail à faire.
Ouais. On va passer à ton troisième coup de cœur, qui est la série des Wonder Woman. Wonder Woman et Wonder Woman 1984, réalisée.
Surtout 1984.
Ah ouais! Fait que c'est ça, c'est 2017 pour le premier, 2020 pour le deuxième. Réalisé par Patty. C'est sorti un peu hybride entre deux années.
Parce que c'était 25 décembre, dans le fond. Et moi, là, c'était ça. À Noël, là, j'étais comme pas de Zoom avec ma famille, mon chum qui moi. C'est comme, on avait tellement hâte de voir Wonder Woman.
Donc, ça, de Patty Jenkins qui met en vedette Gal Gadot dans le rôle-titre de Wonder Woman, alias la princesse Diana. Chris Pine, Robin Wright et David Toulis pour le premier. Dans le deuxième, sont rejoints par Kristen Wiig et Pedro Pascal. L'hypnotisant Pedro Pascal, quel acteur fascinant. c'est quoi Wonder Woman? C'est quoi la place que ce personnage mythique-là, cette super-héroïne-là, occupe pour toi? C'est quoi Wonder Woman et 84?
Écoute, quand j'ai regardé ça, là, je me suis dit... C'est le film que j'aurais aimé voir quand j'étais... C'était l'héroïne que j'aurais aimé voir quand j'étais ado. Là. Mm-hmm. J'aurais aimé ça que ce film-là existe, qu'il existe exactement comme ça. Bon, l'histoire, là, c'est Wonder Woman. Il s'est passé quasiment 100 ans depuis sa première aventure. Et là, elle travaille dans un musée. Elle se fait une amie qui est Barbara. Puis, ils sont super le fun, les deux. Tu sais, les conversations entre les deux, c'est tellement le fun. Fait que déjà, deux filles qui parlent ensemble. Hey.
Oui.
Déjà, tu sais, j'écoutais Tenet, genre deux semaines avant. Oh. Puis, tu sais.
J'en ai parlé de Tenet avec Marie-Lise Hamelin il y a quelques semaines. Ouf! Au moment où on enregistre, l'épisode n'est pas encore sorti. Je m'attends à ce que des fans de Christopher Nolan m'écrivent parce qu'ils ne sont pas contents. C'est ça.
Mais je veux juste dire, OK, bon, on peut aimer ce film-là pour toutes sortes de qualités, mais il y a quand même juste un personnage féminin, dont il y en a deux, là, mais il y en a une autre, et c'est plus comme la magic personne qui vient t'expliquer les affaires à faire. Mm-hmm. Puis. L'autre fille, ben, elle se fait battre, elle se fait tuer. Elle aide les gars à faire les affaires. Tout ça parce qu'elle est une bonne mère. Les filles, là, hein, c'est ça nos héroïnes. Il faut qu'on soit une bonne maman. Ouais. On sauve le monde parce qu'on est une bonne maman. En tout cas, bref. J'aime Christopher Nolan, là, mais Tenet, là, pour moi, c'est comme je suis irritée là, de ce genre de scénario-là. Bon. On revient à 1984, oui. Au beau film avec Gal Gadot. Je suis en amour avec Gal Gadot. Puis, elle se fait une amie, tout ça. Mais là, au musée, il y a une pierre qui arrive. Puis c'est une pierre qui permet de réaliser les souhaits les plus chers. Puis ça, c'est un homme qui s'en empare. Et Maxwell machin, là, je me souviens plus de son nom, en tout cas. Puis là, lui, il veut devenir, évidemment, comme tous les super vilains, là, lui, il veut devenir celui qui réalise tous ses souhaits, puis etc. Puis là, lui, il permet à toute la planète de réaliser ses souhaits. Fait que c'est ça qui fait que elle, il faut qu'elle se batte contre lui, puis en plus contre tout le monde, parce que là, tout le monde a un souhait. Puis il faut qu'elle réussisse à leur faire renoncer aux souhaits. Mm-hmm. Puis t'as aussi Barbara qui devient une méchante, une super vilaine qui est Cheetah. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de la super vilaine, c'est que je trouve qu'elle est plus complexe que les super vilains de super-héros, dans le sens que Elle, on voit au début là, que elle se fait harceler sexuellement sur la rue, puis elle veut juste se défendre. Elle veut juste avoir de la force pour pouvoir se défendre. Puis que quand tu fais un souhait, dans le fond, tu renonces à quelque chose, puis elle, elle renonce, dans le fond, un peu à sa gentillesse puis à son humanité. Mm-hmm. Bref, j'ai aimé ce film-là pour 1 million de raisons, mais surtout pour le regard féminin qui est porté. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour mon essai sur le male gaze versus le female gaze. Ouais. Ce que j'aime de Patty Jenkins, c'est qu'elle a, elle a pas essayé de faire une super-héroïne qui est calquée sur les super-héros. Elle a essayé de faire une super-héroïne comme elle, tu sais, comme elle, elle voit une super-héroïne. Donc, vraiment avec un regard féminin. Donc, vraiment, la bataille finale, c'est une bataille d'empathie. Puis moi, là, ça, là, quand j'ai vu la bataille d'empathie, là, j'ai trouvé ça génial. Parce que je trouve qu'elle a mis des préoccupations qui sont des préoccupations, justement, qui peuvent faire partie du féminisme ou de l'écoféminisme, parce que j'ai vu toute la préoccupation environnementale. Mmh. Genre qu'en ce moment, la planète... T'sais, on est en train de détruire plein de choses au niveau environnement parce qu'on n'est pas capable de renoncer à certaines affaires.
Ouais.
Puis j'ai trouvé ça tellement génial que ce soit ça, puis que dans le fond, sa bataille, ce n'est pas une bataille avec des poings puis avec de la violence, c'est une bataille avec de l'empathie envers les gens, puis elle se bat avec une discussion, avec les mots. Puis j'ai trouvé, tu sais, moi, là, j'ai capoté là-dessus. Puis j'ai lu les critiques encore une fois, puis là, les critiques sont très mauvaises.
Toujours.
OK, premièrement, une affaire qu'on reproche. On reproche qu'elle fasse revenir son chum. Mm-hmm. OK. Capitaine America, là, sur combien de films il reste accroché à sa blonde du passé? Est-ce qu'on peut laisser à Wonder Woman le droit d'être encore en amour avec son chum mort? Est-ce qu'on peut y laisser le droit d'être en amour? Tu sais, ça m'énerve que... Voyons, excuse, je crie, je suis dans mon bureau. Mais ça m'énerve que on dirait que pour que les gens n'aiment pas qu'un personnage féminin fort soit en amour. Pourquoi on n'aurait pas... Pourquoi les personnages féminins... Oui, OK, on est écœurés parce que les personnages féminins, tu sais, c'est souvent leur seule quête. Mais elle, c'est pas ça, sa quête. Ça fait juste partie de son histoire d'être en amour avec ce gars-là. Puis là, il y en a qui disent « Décroche, il est mort! » Puis là, c'est ouais. Comme...
Mais oui. Captain America qui danse avec sa blonde à la fin de Endgame, ça...
Oui, ça, c'est correct, on est touché. Tu sais, un gars a toujours le droit de rester accroché à ses amours du passé, puis on trouve ça touchant. Ouais. Mais quand c'est une fille, on trouve ça désespéré, on trouve ça... Fait que ça, c'est une affaire qui est beaucoup reprochée. L'autre affaire qui est...
Juste une parenthèse, dans les deux cas, Captain America, de le revoir avec sa blonde, j'ai trouvé ça super touchant.
Mais oui!
J'ai trouvé ça beau. Puis dans son cas, ça l'est aussi. C'est autant
pourquoi
valide
pas? Que l'autre. Tu sais, je veux dire, elle a-tu le droit? Je la comprends. Il était fin, son chum. Puis encore une fois, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais... son chum, il est super gentil, c'est pas un amour malsain, il est pas tout le temps en train de l'insulter, au contraire, ouais. Il est comme, tu sais, il l'aide, puis tu sais, il est pas, il se sent jamais menacé par le fait qu'elle est plus forte que lui, plus intelligente que lui, tout ça, tu sais, il est juste, tu sais, fait que je trouve que, encore une fois, c'est un beau modèle sain, puis elle doit renoncer elle-même à son vœu pour... convaincre les gens, puis c'est dur pour elle. Fait que moi, tu sais, je trouvais ça juste le fun. Puis moi, tu sais, j'aime Chris Pine, tu sais, fait que je suis juste contente de le revoir, là. Fait que, puis j'ai aimé que Kristen Wiig aussi. Puis l'autre chose qu'on a reproché aussi, c'est la bataille finale, que les gens ont trouvé plate.
Mm.
Mais, tu vois, moi, c'est ça que j'ai trouvé le fun. Puis, tu sais, je t'avais dit que je voulais te parler, dans mon essai, j'ai découvert que les contes de fées ont été inventés par les femmes au 17e et 18e siècle. Puis quand tu lis Cendrillon, écrit par Marie-Catherine d'Aunoy, qu'elle s'appelait, elle, ça a été la première à écrire le conte de Cendrillon.
Mm-hmm.
C'est un mélange de Cendrillon. C'est dur à lire, là. C'est comme je te disais tantôt, avec des espèces de phrases, tu sais, comme...
Oui, en espèce de vieux français
que tu comprends rien, là. Mais c'est un mélange de Cendrillon, de Petit Poucet, tout ça. Mais les femmes ont créé le conte de fées pour créer une société utopique où les femmes ne seraient pas les domestiques des hommes.
Mm-hmm.
Fait qu'il voulait créer une société où les femmes ne seraient pas seulement des épouses et des mères. Donc, que les femmes pourraient avoir des aventures. Et dans cette société utopique-là, c'était dominé par l'amour. Donc, l'amour des uns des autres, l'amour envers la nature, l'amour sous toutes ses formes. Donc, il y avait des histoires amoureuses aussi. Puis quand j'ai regardé Wonder Woman 1984, on dirait que je me suis dit, hein, on dirait un conte de fées créé par les conteuses utopistes.
Ouais.
Parce que dans Wonder Woman, tu as l'amitié entre deux femmes, tu as l'amour de la planète, de l'environnement, tu as l'amour amoureux, tu as l'amour envers les autres parce que c'est ça sa bataille finale. Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai vu dans la façon de Patty Jenkins de raconter son histoire, j'ai vu ça. J'ai vu le conte de fées utopique. Puis c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial, puis que j'ai trouvé qu'elle a vraiment donné une particularité à cette super-héroïne-là, au lieu que ce soit une super-héroïne bâtie sur le même modèle, le même moule que les super-héros masculins, qui, dans le fond, plaisent à qui? Tu sais, plaisent peut-être seulement aux hommes qui s'intéressent aux films de super-héros, mais moi, je suis une femme qui adore les films de super-héros, tu sais. Donc, Wonder Woman, tu sais, c'est mon coup de cœur absolu. Ouais. Puis, tu sais, j'ai lu là, tantôt, avant le podcast, sur Patty Jenkins, puis je voulais savoir si elle connaissait les conteuses utopistes, là, mais c'est pas ça que j'ai trouvé, mais j'ai trouvé qu'elle a dit, attends, je te sors sa citation, là. Elle dit, on est en train de détruire le monde. Quand est-ce que ça va arrêter? Quand est-ce qu'on va arrêter de vouloir plus? Quel est le prix de nos souhaits? Puis là, j'étais comme, ah, c'est ça que j'ai ressenti dans son film. Tu sais, quel est le prix de nos souhaits? Puis c'est beau quand on voit, tu sais, que la planète est en train de se détruire, tout ça. En tout cas, bref. Puis, autre affaire, c'est le plus grand succès des plateformes.
Ah ouais?
Ouais. Tous les films qui sont sortis sur les plateformes, ben Wonder Woman 1984, c'est le plus grand succès des plateformes.
Très fait cool.
Ceux qui l'ont critiqué négativement, là, dans votre face!
Tu sais, moi, je suis un gros fan de l'univers Marvel. Et je ne sais pas si tu as vu Captain Marvel qui est sorti il y a deux ans, 2019, mais le combat final, c'est elle contre son mentor. Son mentor qui n'arrête pas de dire « faut que tu te contrôles, faut que tu sois en contrôle de toi, faut que tes émotions, faut que tu les réprimes. » Puis t'es en train de dire « sois comme un homme. »
Un homme.
Puis elle lui sac une volée en 3 secondes en disant « j'ai pas à rentrer dans les codes que toi tu m'imposes, alors que toi, tu n'as pas les pouvoirs que moi je suis capable d'avoir. » Juste cette finale-là, j'ai comme « bon, mais let's go, c'est ça! » Elle ne veut pas contrôler ses émotions. Si elle veut se laisser emporter par ce qu'elle est, qu'elle fasse. Puis souvent, on y reviendra en deuxième partie, mais souvent, la vision des hommes sur les personnages féminins, il faut qu'elles soient en contrôle d'elles-mêmes. Il faut qu'elles perdent leurs émotions. C'est souvent ça. Puis une anecdote que ma mère me raconte souvent, elle avait assisté à une conférence de Lise Payette à l'époque, là, dans les années 80, quand Lise Payette n'était plus députée.
Ouais.
Mais Lise Payette disait... Jacques Parizeau pouvait arriver à l'Assemblée nationale puis que son complet 3 pièces ou un complet 2 pièces et quart puis qu'il y ait des boutons défaits, qu'il y ait les cheveux puis la moustache de travers, il sent l'alcool, mais il a travaillé.
Ah ouais, c'est ça.
Un travaillant, ça veut dire que la nuit passée, là, il a été dans ses dossiers jusqu'à 4h, 5h du matin, puis là, il est là. Elle, si elle arrive avec une breloque qui est un peu déplacée, Ça passe pas, retourne chez vous, t'es mal habillée, t'es pas bonne, t'es ci, t'es ça. Puis on le voit avec Catherine Dorion, on le voit qui a porté une fois, mon Dieu, un coton ouaté. C'est encore tellement présent cette notion-là qu'il faut que les femmes soient toujours en contrôle d'elles-mêmes.
Ouais.
Puis de ce que j'entends, ce que tu me décris, de ce que Patty Jenkins dit, de ce qu'on voit dans Wonder Woman. Enfin, on enlève ces principes-là, qu'il faut que ce soit droit, qu'il faut que ce soit, tu sais...
Qu'il faut que ce soit pareil, tu sais, qu'il faut que ce soit pareil, tu sais, pourquoi la super-héroïne féminine, il faudrait qu'elle soit pareille comme les super-héros masculins qu'à se battre de la même façon, qu'à, tu sais. Puis, deux affaires. Patty Jenkins, là, j'ai lu tantôt que elle a failli pas faire le 2 parce qu'elle se faisait offrir des pinottes pour le faire. Ah, ouais. Elle disait, tu sais, un homme, là, mettons, qui va faire un petit film indépendant, puis après ça, qui va faire un film de super-héros, il va se faire offrir, tu sais, comme un pot d'or, tu sais. Mm-hmm. Puis elle dit, moi, j'ai fait un succès avec le premier Wonder Woman, puis j'ai même pas le droit d'avoir un bon salaire, tu sais.
Ouais.
Fait que je la trouve quand même Wonder Woman, tu sais, Patty, parce qu'elle s'est battue pour des affaires, puis... Tu sais, je veux dire, moi, pour écrire des scénarios, là, puis m'être battue pour mes films, puis avoir gagné des batailles, mais en avoir perdu d'autres. Tu sais, comme il y a des affaires dans Aurélie que je trouve que c'est male gaze, parce mm-hmm. que des fois, je travaillais avec des réalisateurs masculins, puis tu sais, des fois, tu travailles en équipe, tu n'as pas le choix d'accepter certaines affaires. Malgré tout, tu sais, je pense que tout, tu sais, avec chacun des réalisateurs, on a réussi à faire des compromis, tu sais, qui fait que j'aime mes films quand même. Mm-hmm. Mais tu sais, probablement qu'elle aussi, il y a des affaires qu'elle a dû faire des compromis, tu sais, puis c'est ouais. normal parce que c'est une grosse équipe, tu sais, t'as pas juste le auteur, réalisateur, t'as les producteurs, t'as les distributeurs, t'as les studios, t'as les investisseurs, bon, tu sais, t'as plein de couches de monde, tu sais, et qu'il faut tout qu'on s'entende là-dedans. Fait que je suis sûre qu'elle a dû renoncer à certaines affaires, mais en même temps, je trouve qu'elle est Wonder Woman parce qu'elle s'est battue pour des affaires, puis moi, je trouve qu'elle a fait un super film de super-héroïne. Ouais. L'autre affaire, quand tu vois Wonder Woman par Zack Snyder dans Justice League, ce n'est pas le même personnage.
Ben, on pourra y revenir après ouais. la pause, parce que ça va être le pont vers ton film détesté, on vient de l'annoncer, c'est Justice League. Juste avant qu'on y arrive, pour encore lancer des fleurs au personnage qui est Wonder Woman, sa création est assez fabuleuse aussi. C'est attribué à un gars qui s'appelle William Marston, qui était un professeur, je ne me souviens plus à quelle université, Harvard, je pense, dans les années 20. Mais ce qui était important dans son parcours de vie, il voulait créer un personnage féminin parce qu'il n'était plus capable de voir des personnages masculins, mais il était épaulé dans la création d'une femme qui s'appelle Elizabeth Holloway Marston, donc son épouse, qui, elle, vient d'une lignée de femmes anarchistes, socialistes, communistes, wow. qui manifestaient, puis qui se faisaient enfermer, puis qui étaient féministes dans les années fin 1800, début 1900. Donc, elle est issue de cette lignée-là. Et dans les années 20-30, elle était psychologue et avocate.
C'est
déjà
malade.
Là, ça n'a pas de sens. Et ce couple-là ont rencontré une femme qui s'appelle Olive Byrne, qui était plus jeune qu'eux, mais ils en sont tombés amoureux et amoureuses. Elle a rejoint leur couple, donc c'est devenu un trouple. C'est devenu c'est une relation polyamoureuse. Et c'est elle qui les a introduits à tout ce qui est BDSM, tout ce qui est consentement sexuel. Mais ce qui expliquerait, selon la légende, pourquoi Wonder Woman a un fouet, pourquoi elle a des menottes, pourquoi elle a un saut qui fait
c'est
un peu plus
cute.
Mais c'est un trouble qu'il a créé, qui a
c'est vraiment Wonder Woman. Drôle. C'est vraiment le fun.
Ça a souvent été repris par des hommes, malheureusement. Après, ça a été long avant que des femmes puissent écrire du Wonder Woman.
Ben oui.
Mais c'est ça. Donc, sur cette ces fleurs lancées à ce beau personnage, oui. On va faire une pause. Et justement, au retour, on reste dans le monde merveilleux de DC et la poche masculine de Zack Snyder sur Wonder Woman. Et on termine l'émission avec...
Nuit de noces!
Avec Nuit de noces, une comédie romantique toute québécoise, pure sirop d'érable. À tout de suite! Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/onjasedefilm. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jade Osorus, John Vanas, Tout Simplement Joe, Zachary Sirbelec et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/onjasedefilm. En terminant, si vous avez deux petites minutes, Vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité India Desjardins, avec qui, en première partie, on a jasé des films Don't Tell Mom, The Babysitter's Dead, Moxie et Wonder Woman, et Wonder Woman 1984. On continue la conversation sur l'univers DC avec Justice League, qui est un film initialement sorti en 2017, qui a été remonté. Je ne ferai pas toute l'historique parce que j'en ai parlé dans un autre podcast.
Pour vrai? T'en as parlé?
Oui, ben pour les membres Patreon de l'émission, j'en ai parlé avec le réalisateur Rémi Fréchette et l'animateur des Mystérieux Étonnants, Benoît Mercier.
Ah oui, puis tu disais que c'était un coup de cœur, hein? Puis que moi, tu sais, finalement, c'est...
Ouais, non, c'est ça. Donc, pour connaître toute l'histoire, ben non, c'est bien correct, mais pour connaître... Non, moi j'ai pas trippé tant que ça sur Justice League, mais c'est... En tout cas, c'est pas important ce que j'en pense, mais... Donc, c'est ça. Donc, je ne ferai pas toute l'historique là, de pourquoi ils ont refait un nouveau film, blablabla, mais c'est réalisé par Zack Snyder, oui. Oui,
c'est ça. T'sais, court, là, lui, sa femme a été malade, puis c'est très triste.
En fait, c'est sa fille qui s'est enlevé la vie pendant le tournage. Okay. Ouais, donc, il a quitté le tournage, c'est un autre réalisateur qui est arrivé.
Qui est arrivé, il n'a pas aimé ça.
Ouais, fait qu'il a décidé de refaire son film. Celui-là met évidemment en vedette Gal Gadot, toujours dans le rôle de Wonder Woman, mais Ben Affleck qui joue une montagne de Batman, Henry Cavill qui est
pire Batman de l'histoire de l'humanité.
Henry Cavill qui est un Superman convaincant, moi j'aime bien sa
oui,
proposition.
Oui, d'accord.
Ray Fisher, Ezra Miller, Amy Adams et Diane Lane qui sont relativement défigurantes. C'est quoi Justice League? Ça a été quoi ta perception de ce film-là et de voir ce qu'on fait de Wonder Woman avec Justice League?
Bon, fait que Justice League, là, en gros, l'histoire, c'est...
C'est 4 heures de gens qui cherchent des boîtes.
C'est 4 heures de gens qui cherchent des boîtes puis pour sauver le monde. Parce que, tu sais, dans les films de super-héros, là, l'enjeu, c'est toujours que la planète explose. Parce que les méchants... Moi, ça, c'est quelque chose que ça me crée un questionnement. Là. Les super vilains là, dans les films de super-héros veulent tout le temps détruire la planète. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a là, cette planète-là? Mais probablement que ça représente une métaphore, tu sais, de notre plus grande peur,
oui, oui, oui.
Que la planète se détruise. Mais bon, c'est toujours ça. Puis là, ben, Zack Snyder, là, ça paraît dans Justice League Reboot qu'il était frufru parce que il nous montre pendant 4 heures comment il aurait fait ça. Puis juste le fait que ça dure 4 heures, pour moi, c'est son arrogance, tu sais, qui est toute comme dans chaque image, tu sais. Puis dans chaque image, tu sais, souvent, là, je regardais, là, puis je disais à mon chum, pèse sur pause. Puis il fallait que j'exprime ma rage. Puis là, à un moment donné, là, ça faisait 1h15, là, puis là, mon chum m'a dit, India, là, qu'est-ce que t'en penses si on fait nos commentaires après? Parce que là, je peux pas apprécier le film parce que t'arrêtes pas d'arrêter. Puis à chaque fois qu'on voyait Wonder Woman, là, j'avais tellement une colère qui montait, là, parce que c'est pas Wonder Woman. Puis je sais pas si t'as remarqué, là, mais chaque personnage a une musique différente.
Oui.
OK? Puis la musique de Wonder Woman est tellement énervante, là. C'est incroyable. Je me dis, ben voyons donc, à chaque fois qu'elle se bat, là, c'est une espèce de musique fatigante. En tout cas. Mais
on
bref.
On dirait une espèce de chorale de Enya.
Ugh!
Ouais, c'est ça. T'sais, ils n'ont pas gardé son gros riff de guitare auquel on était habitués, qui est le fun, là.
Oui. Ça n'a aucun rapport. Puis, bref. Tu sais, mettons qu'on se concentre juste sur Wonder Woman parce que je l'aime tellement, parce que c'est mon personnage, parce que c'est ma super-héroïne. Là, OK, premièrement, c'est une poupée. Tu sais, c'est une poupée là-dedans. Tu sais, mettons, quand tu la vois dans Wonder Woman 1984, là, tu sais, quand elle travaille au musée, c'est une scientifique. Elle a des lunettes, elle a, tu sais, des beaux tailleurs, tu sais, elle est en talons hauts, puis c'est le fun, tu sais, elle est sexy, mais pas sexy male gaze, tu sais, elle est sexy female gaze, tu sais, donc elle est super bien habillée, designer, tout ça, mais elle a un veston, elle est tout le temps bien habillée, mais elle n'est pas objectifiée. Dans Justice League, là, écoute, à un moment donné, là, elle est juchée sur une échelle, OK?
Ouais.
Elle est en train de faire de la conservation d'art, là. Fait qu'elle est montée sur une échelle avec ses talons hauts, avec une espèce de robe super serrée, tu sais, avec des genres de trous de peau sur le côté, oui, oui, là. Fait qu'elle, elle travaille au musée avec... Puis on s'entend, là. Les femmes ont le droit de porter ce qu'ils veulent, OK?
Mm-hmm.
Mais viens pas me faire à croire, OK, que tu t'en vas travailler dans un musée avec une robe blanche, avec 5 trous sur le côté, décolleté, puis tu vas monter sur une échelle pour faire de la conservation d'art en talons hauts.
Oui, ça, oui. Surtout moi, habillé en blanc. Surtout habillé en blanc pour aller poussiérer des affaires.
Exact.
Tu portes un sarrau d'habitude. Où tu...
Oui. Puis, quand elle est dans ses réunions avec les gars, ben c'est ça, elle a toujours des décolletés plongeants, elle est tout le temps habillée en culotte de cuir. À un moment donné, là, tu la vois dans son costume de Wonder Woman, puis là, c'est en CGI, OK, à l'atterrit. Puis là, d'un coup, c'est son armure pogne au vent, puis tu y vois ses rondes fesses.
Évidemment.
T'as pas ça là, dans le film de Patty Jenkins. Là. T'as pas ça. Elle n'est jamais objectifiée. Mm-hmm. C'est l'actrice. Puis là, à un moment donné, elle est en... Tu sais, dans le film Wonder Woman 1984, elle est super intelligente. Elle a beaucoup de culture. C'est une scientifique. Elle travaille dans un musée. T'sais. Fait qu'elle trouve des affaires. Elle trouve des solutions, tout ça. Là, elle est en discussion avec Batman, qui est un épais, grosso modo, là, tu sais. Puis en plus, elle est jouée par Ben Affleck, fait qu'il a encore l'air encore plus d'un épais. Puis là, ils sont en train de discuter, puis normalement, elle serait comme intelligente, là, tu sais, fait qu'on s'imagine qu'elle l'est. Puis d'un coup, il s'accroche la main, puis là, elle est comme, oh, tu sais.
Ben oui.
Ce n'est pas Diana. Diana, là, elle s'en foutrait de Batman. Elle s'en fout. Elle aime encore son chum mort. Tu sais? Fait que, elle ne serait pas là, comme, ouh, tout d'un coup, là, tu sais, comme.
Puis, oui, ce gars-là m'a touché.
Elle sert presque à rien. Excuse-moi, je suis fâchée, là, fait que je parle fort. Elle sert presque à rien dans le film. Puis, écoute, même Aquaman, tu sais, il y a des affaires, là, qui m'ont... Tu sais, à un moment donné, là, t'as Aquaman, OK, qui vient de... Je me souviens plus qu'est-ce qu'il vient de faire, là. Il vient de sauver quelqu'un, puis il faut qu'il aille prendre un whisky. Je suis comme, pourquoi l'homme des mers a besoin d'aller dans une taverne prendre un whisky parce qu'il vient de sauver quelqu'un? Tu sais, j'ai de la misère à croire. Puis là, il s'en va sur le quai. Puis là... Il jette sa bouteille de whisky dans la mer. Puis là, là, t'as des vagues qui montent autour de lui. Puis ça fait comme des espèces de d'ailes d'ange. Là. Puis moi, je l'imaginais Zack Snyder dans la salle de montage. En tout cas, je te dirais pas ce que je m'imaginais qu'il faisait, mais je trouvais qu'il avait l'air très fier de lui-même et de sa chute. Puis je me disais, c'est impossible, OK, qu'un homme qui habite dans l'océan, OK, fait qu'il est au courant là, de tous les enjeux d'océan, là. Il jette sa bouteille de whisky. Puis là, mon chum était là. Il me dit, ah, là, c'est un film magique, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais,
il jette... Il y a un niveau de magie qu'on peut accepter à un certain point, comme tu as dit en première partie.
Moi, là, la magie de jeter sa bouteille dans son lieu de résidence, là, qu'il essaye de sauver, ça se peut pas qu'il soit pas conscient de la pollution des océans, puis qu'il jette sa bouteille de whisky.
Ça veut dire que ce gars-là, c'est juste pas vivre chez eux.
C'est ça! Fait que je suis comme, oh, ça me gosse, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment douchebag, là, tu sais, je suis comme, arc, tu sais, c'est ça. J'étais vraiment fâchée, mais c'est surtout, j'étais fâchée parce que je me disais, OK, mettons le gars, là, il a voulu le refaire, là. Pourquoi il n'est pas allé checker avec Patty Jenkins, tu sais, comment que Wonder Woman, tu sais, elle pourrait être plus intéressante ou... En tout cas, j'ai trouvé ce film-là, j'ai trouvé son reboot vraiment arrogant. Puis, tu sais, j'ai vraiment de la peine pour ce qu'il a vécu. Ça doit être difficile de vivre un deuil d'une personne qu'on aime puis de vivre un deuil sur notre vision d'un film. Puis ça, là, tu sais, j'ai de l'empathie pour lui puis tout ça. Mais moi, ça me fâche parce que ça représente tout ce qui m'énerve de comment certains créateurs masculins vont imposer une vision de ce qui est pour eux un personnage féminin.
Ouais.
Puis je suis tannée de ça. Je suis tannée en tant que femme, je suis tannée en tant que créatrice qui est parfois pas écoutée. Je suis tannée de ça, tu sais.
Mm-hmm. Puis, comme tu disais en première partie, il faut que l'héroïne soit la maman.
Ouais.
Puis, la première scène où on voit Diana, Wonder Woman, il faut qu'elle soit là pour sauver des enfants qui sont en
danger.
Mais les autres, tu ne les vois pas sauver des enfants. T'as Flash qui sauve sa blonde, sa future blonde, quoi. Il sauve une fille d'un accident de voiture en prenant soin de ramasser des saucisses au passage.
pour donner
aux chiens. Mais les autres, tu ne les vois pas sauver des enfants. Il y a juste elle qui est dans cette séquence-là où tu as des messieurs qui attaquent je ne sais pas trop quoi, mais c'est ça. Elle est là pour protéger tous les petits-enfants. C'est comme si le grand combat ne pouvait pas le mener. Puis il y a ça. Puis une autre affaire, la scène à laquelle tu fais allusion, là, où est-ce qu'il se touche la main, puis oh mon Dieu, soudainement, wow! Batman, Batfleck, lui mansplaine l'héroïsme.
Je sais!
En disant que t'étais où quand on avait besoin de toi, qu'est-ce que t'as fait? Puis j'avais vu un montage qui m'a vraiment fait rire de lui qui dit tout ça. Puis en parallèle, t'as les images de Wonder Woman 1984.
Oui, c'est ça!
Ben, elle sauvait le monde.
Oh.
Pas parce que tu l'as pas vu faire, qu'elle était pas là.
Souvent, là, je faisais sur pause puis je disais à mon chum, je peux pas m'en empêcher cette fois-ci, là, mais c'est du mansplaining envers ma Wonder Woman!
Je veux juste dire que si Wonder Woman restait autant accrochée sur la mort de ses parents comme Batman l'est, ça fait longtemps qu'on y aurait dit de décrocher. Je veux juste dire ça.
Merci.
Parce qu'à un moment donné, Batman fait ton deuil. C'est triste, puis encore là, on a de la compassion, de l'empathie. Tout ça, ça reste un personnage fictif, fait que on peut un peu moins, mais décroche de cette rue-là.
Ouais, sors de ta colère, là.
C'est ça.
Dans Moxie, elle sort de sa colère plus vite. Mais oui. une passe du film aussi, là, que j'ai demandé à mon chum d'arrêter juste pour rire, OK? Pour rire. Batman nous raconte son rêve à Wonder Woman. J'ai comme... Really? On regarde un film de 4 heures, puis Batman est en train de nous raconter son fucking rêve? Je suis comme... T'as donc bien du temps à mettre à l'écran! Oh. Écoute, ça m'a gossé, là, Puis là, elle est là. Elle est là comme... Ah! C'est comme, elle sait pas quoi dire. Qu'est-ce que tu veux dire à Batman qui te raconte? Mais on excuse, je parle fort, puis mon bureau reflète ma voix. Les gens qui écoutent, ils vont trouver ça tellement insupportable.
Non, pas du tout.
Je m'excuse pour ma voix qui se reflète sur mon bureau, puis que ça donne un acoustique désagréable.
C'est bien correct.
Mais je suis trop fâchée contre ce film-là. Je suis fâchée. Je vais aller écouter ton podcast pour savoir qu'est-ce qu'ils disent de bon sur ce film-là, parce que j'ai...
Non, on avait pas grand-chose. On avait des bonnes affaires, parce qu'on le regardait en comparaison avec la première version, fait qu'il y a des ambiances, des moods qui sont plus intéressants, puis il y a des aspects qu'ils récupèrent qui sont mieux menés, mais...
Oui, OK, je l'accorde.
Puis, je pense qu'il y a une scène entre Diane Lane et Amy Adams... qu'on pourrait dire, ah, c'est peut-être la scène qui va faire en sorte que le film passe le test de Bechdel.
Mais il parle de peut-être. Superman.
Elle parle de Superman, donc ça le passe pas. Puis tout de suite après, on découvre que dans le fond, Diane Lane, dans cette scène-là, était un extraterrestre déguisé.
Oui!
En Diane Lane slash la mère de Superman. Fait que tu dis, bon, ben c'est zéro en le test de Bechdel, ça.
Puis ça, même, j'étais comme. Tu sais, il a comme fallu que je réfléchisse 3 fois, là, tu sais, comme, c'est quoi cette affaire-là? En tout cas, tu sais, puis l'espèce de... Moi, quand il y a 3 finales, là, puis tu sais, flashback Seigneur des Anneaux, là, tu sais, 4 finales, là, tu sais, un moment donné, là, c'est comment tu le finis, ton film, là.
Ouais.
Puis là, dans Justice League, là, ça n'en finit plus, les finales, là. Puis en plus... Je trouve qu'ils sont malhonnêtes parce qu'ils nous font une finale en nous parlant d'un multivers, que ça, dans le fond, c'est comme un des mondes possibles.
Mm-hmm.
Fait que dans le fond, après ça, ils peuvent faire n'importe quoi parce que c'est une des infinies possibilités. Puis ça, ouais. Moi, ça me gosse un peu. Tu sais, finir avec le rêve de Batman, que c'était une anecdote inutile pendant le film, là, et son hostie de rêve, là, on peut-tu décrocher de cette affaire-là? Là, c'est donc bien important, tu sais.
Il se met à parler avec le Joker. Oh, mon Dieu, déjà.
C'est ça.
Ça aussi, mais bon. Ton plaisir coupable, bon. Pour finir en beauté, c'est Nuit de noces de 2001, réalisé par Émile Gaudreau, monsieur box-office québécois depuis de père en flic et tout grand succès.
Ça tu sais, je t'ai dit que je te disais ça de mon plaisir coupable pour pas te dire mon vrai plaisir coupable qui est les films de The Rock. Je suis comme une fan de The Rock puis j'aime tous ces films.
Ben, on peut faire une petite parenthèse sur The Rock. Qu'est-ce que t'aimes autant de The Rock?
Je capote sur The Rock. Sais-tu que ça me rappelle? Ça me rappelle les films de Arnold Schwarzenegger de quand j'étais petite. Puis je trouve que ça n'existe plus, ce genre de film-là. Tu sais, des films avec une espèce de gars musclé qui est comme un bon papa. Moi, ça me fait penser à mon père, parce que mon père faisait du karaté. Okay. C'est un bon papa, tu sais. Puis moi, là, un flic à la maternelle, ou ces affaires-là, ces genres de films. Et moi, là, j'aime même... Tu sais, le film, là, Last Action Hero.
Ah, mais ce film-là est génial. Ce film-là est bon, du début à la fin. Merci. C'est un des meilleurs films de Schwarzenegger.
J'ai des frissons!
Je le dis, c'est un de ses meilleurs films de tous les
temps. D'accord!
J'ai un podcast parallèle sur mon Patreon avec ma sœur où est-ce qu'on a revisité justement un flic à la maternelle, puis ça finit, moi, pendant 5 minutes, qui dit à quel point Last Action Hero est un grand film sous-estimé. Puis c'est pas juste un bon film, c'est un grand film, à mon avis.
C'est un grand film!
C'est un grand film d'action.
Écoute, mon chum et moi, on l'a réécouté cet été, là.
Ah.
Puis on a fait des recherches, parce qu'on comprenait pas comment ça, ce film-là, c'est pas un film culte, OK? Puis... Écoute, il y a même des affaires féministes dedans, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, il parle avec la mère du petit gars, puis il dit « Hey, c'est la première fois que je parle avec une femme, mais c'est très intéressant! »
Oui. Ça, il découvre Mozart.
Oui, c'est ça.
Il rencontre la mort du film Le Septième Saut de Bergman.
c'est malade! C'est un film pour les gens qui adorent le cinéma, puis que c'est vraiment génial, ce film-là. Puis on dirait que The Rock... C'est comme lui qui a repris un peu le
deuxième degré, toujours dans le regard un peu. Je le sais que c'est con. Je suis dans Jumanji. Je le sais que c'est niaiseux.
C'est ça. Puis Jumanji, on s'entend. Le Jumanji de The Rock est vraiment moins bon que le notre Jumanji, en tout cas de mon époque. Mais The Rock, là, je sais pas, j'ai un faible. Je l'adore. C'est ça. Mais j'ai choisi
Nuit de noces parce que... En fait, j'ai aussi une petite anecdote sur The Rock que je trouve savoureuse parce que ça montre un peu quel genre de dude qu'il est. Il fait la voix dans le film Moana. C'est lui qui fait l'espèce de demi-dieu là, qui chante la chanson. Puis il voulait pas dire à sa fille que c'était lui qui faisait la voix. Il voulait vraiment que sa fille ait l'immersion de... C'est un personnage, c'est pas mon papa, si je sais que c'est mon père. Pour lui, ça allait détruire un peu la magie. Puis à un moment donné, pour le fun, il se met à chanter la toune de ce bonhomme-là à la maison. Puis sa fille, elle a juste dit « Papa, arrête, tu chantes pas bien. Tu chantes pas aussi bien que dans... Tu chantes pas comme le monsieur dans le film. » Il est comme « Bon, OK, je vais arrêter. »
Sais-tu ce que j'aime aussi de The Rock? C'est qu'il paraît qu'il est full fin.
Apparemment.
T'sais? Puis moi, quand j'aime quelqu'un, là, un acteur, je fais des recherches sur lui pour savoir s'il est fin ou s'il est pas fin. Puis là, lui, j'ai trouvé qu'il était super fin. Fait que... Puis Arnold aussi, hein, Arnold Schwarzenegger, parce que j'adore les films d'Arnold Schwarzenegger. Regarde, t'sais, quand on dit un plaisir coupable, je suis féministe, j'aime les films avec les personnages féminins forts, tout ça. Puis j'aime aussi, t'sais, des fois, des films avec... Mais en même temps, je trouve que, oui, c'est des films qui ont pu promouvoir la masculinité toxique, mais en même temps, je trouve que Arnold puis The Rock, il amène un côté plus tendre, tu sais, que c'est pas juste de la masculinité toxique. Tu sais, je trouve qu'il amène justement le côté tendre qu'on veut voir chez les hommes. Mais bon, tu sais, on s'entend que c'est pas, tu sais, comme la perfection, mais c'est à ça que ça sert un plaisir coupable.
Exact.
Fait que c'est ça.
Donc, Nuit de noces.
Nuit de noces, pourquoi je l'ai choisi, c'est que je trouve qu'il y a pas beaucoup de comédies romantiques québécoises. Puis,
romantique pure, là.
Oui, ouais. C'est vraiment une comédie romantique, là. Donc, comédie romantique, c'est comme... Tu sais, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. C'est avec certains codes. Puis, ce film-là, il les respecte tous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Donc, je ne sais pas si ça glorifie un amour toxique. Ça, je ne suis pas capable de te le dire, tu sais. Mais en gros, c'est un couple qui gagne un concours et qui doivent aller aux chutes Niagara pour se marier.
Donc, ils se font imposer la victoire d'un concours.
Oui, puis il me semble que le gars, il ne veut pas tant se marier, tu sais, puis que la fille, elle veut. En tout cas, il me semble, mais c'est flou dans ma mémoire. Puis c'est ça. Puis moi, j'avais beaucoup aimé ça. Puis pourquoi je voulais t'en parler, c'est que moi, j'essaye de faire beaucoup découvrir des œuvres québécoises autant de la télé que du cinéma à mon chum, parce que lui, avant de me connaître, tu sais, il n'était pas nécessairement... tu sais, il ne connaissait pas beaucoup la culture québécoise.
Okay.
Puis, ben, tu sais, c'est un scientifique qui a étudié à l'université, qui est intéressé par les trucs de science, il lit des essais en anglais, tu sais, il est moins dans les affaires de fiction ou de roman ou de film, tu sais. Il n'écoutait même pas. C'est moi qui ai fait découvrir les films de super-héros. Quand je l'ai rencontré, il n'aimait pas les films de super-héros. Puis maintenant, tu sais, il aime ça, mais tu sais, c'est vraiment parce que moi, je l'ai fait découvrir ça, tu sais. Donc tu sais, il écoutait plus des documentaires de science. Mon chum, c'est vraiment un geek de science. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, je voulais faire découvrir comme ce film-là, Nuit de noces. Puis c'est introuvable. Ouais. Puis ça me fait de la peine que notre cinéma québécois soit difficile à trouver sur les plateformes. Puis là, c'est même des plateformes comme iTunes, là, parce que je l'ai cherché sur iTunes, je le trouve pas, il est pas sur Netflix, il est pas sur Prime, il est pas sur Crave, il est sur rien.
Est-ce qu'il serait la BANQ peut-être? Je sais pas.
Tu sais, j'ai checké tantôt là, sur Éléphant.
Ouais.
Puis là, j'essayais louer ce film, puis ça m'amenait sur d'autres films. Oh, fait que je sais pas là, si c'est moi qui est technologiquement nul, mais de toute façon, comment on fait pour louer ça? Je ne sais pas. T'sais, si ça prend des connaissances plus que mes connaissances à moi là, pour louer un film, là, t'sais, pourquoi c'est pas facilité pour nous de voir nos films? T'sais? Puis moi, c'est quelque chose que j'aimerais que ce soit plus accessible. T'sais, même moi, là, mes films d'Aurélie, là, en France, là, il y a plein de Français qui aimeraient les écouter parce que mes livres sont très lus en France, mais ils ne peuvent pas le trouver parce que c'est juste disponible sur iTunes Canada. Ce n'est pas disponible sur Netflix ou tout ça. Donc, tu sais, je trouve ça plate qu'un film comme Nuit de noces, que moi, j'aimerais faire découvrir à mon chum parce que depuis que j'ai écrit mon essai, mon chum, ben tu sais, il aime ça regarder des comédies romantiques maintenant avec moi parce que, tu sais, il dit « Ah, ben j'aime ça l'analyser avec... » Tu sais, je donne plein d'outils, dans le fond, dans mon livre pour analyser les comédies romantiques. Fait qu'il aime ça, tu sais, ça va chercher un peu son côté scientifique, justement. Fait que là, ce film-là, j'aimerais ça y faire découvrir, puis c'est introuvable, puis je trouve ça vraiment triste.
Ben oui, c'est très dommage. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse lacune au niveau de l'accessibilité au cinéma québécois.
Ouais.
Puis... Tu sais, je suis le premier à dire qu'une plateforme comme Éléphant, c'est super, c'est le fun, tout ça, mais il faut quand même louer chaque film à la pièce. Tu sais, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas un service comme Netflix pour regarder ces films-là. Nuit de noces, il faut attendre qu'ils passent à RTV à toutes les...
C'est ça.
Oui, c'est ça. À toutes les trois éclipses, il va jouer à RTV.
Il faut que tu saches c'est quand, là, puis Éléphant, là... Pour louer, il faut que tu loues sur ton ordinateur. Mais moi, là, je suis peut-être old school, mais j'écoute encore mes affaires à la TV. Fait que moi, j'ai le Apple TV. Fait que, tu sais, dans le fond, je me loue mes films par iTunes ou sur Netflix, tout ça par ma télé, tu sais. Tu sais, je suis avec mon chum, on ne va pas regarder par un petit écran un film. Je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça, mais moi, tu sais, moi, j'aime encore voir mes affaires sur grand écran. Ah oui. Puis, tu sais, donc, fait que c'est ça. Fait que je trouve ça plate, l'accessibilité à notre cinéma. Puis aussi, ben je trouve qu'il devrait y avoir plus de comédies romantiques au Québec. Puis, tu sais, pour mon essai, j'ai parlé à Patrick Roy, qui est le président, dans le fond, des films,
films
TV, E1, tout ça. Puis, tu sais, il me l'a dit, tu sais, c'est ben, premièrement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en écrivent. Puis, deuxièmement, c'est difficile à faire accepter. Tu sais, comme moi, tu vois, j'ai écrit un film de Noël, une comédie romantique de Noël. Tu sais, là, on est à notre deuxième refus, puis bon, peut-être qu'il y a de l'espoir pour l'avenir, mais puis tu sais, je m'en plains pas du tout, là, tu sais, des fois, tu reçois des commentaires, puis c'est des commentaires très pertinents, puis ça t'aide à améliorer, dans le fond, ton scénario. Mais c'est ça, tu sais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui écrivent des comédies romantiques, tu sais, c'est... En même temps, je comprends. Moi, mon film, là, ça fait 10 ans que je travaille dessus. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il faut que ça tente d'être 10 ans dans une comédie romantique. Puis des fois, tu as d'autres choses à dire. Puis des fois, tu veux pas être perçu comme quétaine. Moi, l'affaire, c'est que ça me dérange pas d'être perçu comme quétaine. Mm-hmm. Mais c'est sûr que quand tu fais des films, ben, tu veux pas être perçu quétaine. T'sais. Fait ouais. que, t'sais, tu te dis, ah, le cinéma, c'est de l'art, tout ça. Mais moi, tu sais, je te l'ai dit, mon premier film, c'était E.T. Puis les films qui m'ont marqué, tu sais, j'adore les films de super-héros, j'adore les comédies romantiques. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que j'ai envie d'écrire, mais, tu sais, c'est ça, Yann. Tu sais, je comprends que c'est pas nécessairement l'intérêt des gens, mais moi, tu sais, comme j'aimerais ça qu'au cinéma québécois, on en fasse plus des comédies romantiques. Fait que c'est pour ça que Nuit de noces, j'adore ce film-là. Puis oui, j'aime beaucoup les films de Émile Gaudreau parce que je trouve que, justement, tu sais, c'est du cinéma divertissant, c'est du cinéma que... Tu sais, moi, j'ai tout le temps le goût d'aller voir ces films cinéma, là, tu sais.
Oui, parce qu'on le doit aussi Menteur, ben ça, les deux de père en flic. En tout cas, c'est plein de films. Là. Il est assez prolifique. Puis... Mais tu sais, il ne sera jamais célébré comme étant un des grands réalisateurs parce que c'est de la comédie populaire. C'est du cinéma qui s'adresse à tout le monde. T'sais, c'est pas ça qui va gagner des prix. Je comprends pourquoi, tu sais,
c'est ça.
Aux derniers Oscars, c'est Nomadland qui a gagné. Là. C'est pas Wonder Woman. On comprend
c'est
quand
ça.
Même. C'est
juste... Mais moi, c'est Wonder Woman que je vais écouter toute ma vie.
Oui, ouais, exact.
Puis Nuit de noces, ben, je vais avoir envie de l'écouter. Tu sais, honnêtement, s'il était disponible, là, ce serait le genre de film que j'aimerais réécouter souvent, là, mettons à tous les 2 ans ou quelque chose comme ça.
Oui, il y a eu comme une petite phase dans le cinéma québécois où on en faisait un peu. Il y a eu Nez Rouge à peu près la même année. Ou deux, trois ans plus tard, il y a eu Duo, il y a eu... Tu sais, il y a comme une période où on en faisait un peu des comédies romantiques. Puis à partir de 2005-06, ça a comme arrêté d'un coup. Puis tes deux films d'Aurélie Laflamme, c'est des films d'ado, mais il y a un côté comédie romantique dedans. Ouais. Il y a des aspects. Ça a-tu été difficile d'amener Aurélie Laflamme à l'écran? Parce que le premier livre est en 2006, le premier film en 2010, donc il y a 4 ans qui se passent. Ça a l'air rapide dans le contexte québécois quand même.
Oui, mais c'est parce que j'ai eu la chance, parce que l'affaire, là, c'est complexe, là, mais tu sais, c'est un système qui fonctionne avec des comparatifs. Ouais. Fait que j'ai eu la chance que quand je présentais, mettons, Aurélie, ben j'étais peut-être le seul projet ado, tu sais. Fait que j'ai eu cette chance-là de peut-être pas, dans le système comparatif, de peut-être pas avoir beaucoup de compétition.
Ouais.
Ça, c'est une autre affaire, tu sais, c'est est-ce que, bon, tu sais, quand tu vas faire un film, tu veux-tu faire un film, justement, jeunesse, que tu vas être catégorisé? Tu sais, moi, il y a des gens, là, tu sais, à un moment donné, il y avait une affaire, là, c'était comme les femmes en cinéma, puis là... Il y avait quelqu'un qui voulait m'inviter là-dedans. Puis là, il y avait quelqu'un d'autre qui avait dit « Ben, India, c'est pas une femme en cinéma. » Puis là, je suis comme « J'ai écrit 2 films qui ont fait 1 million chacun un box-office, mais je suis pas une femme en cinéma. » c'est ça. C'est que j'ai pas fait des vrais films. Ouais. Tu comprends? Dans la tête des gens, j'ai pas fait des vrais films parce que c'est 2 films jeunesse. Personnage féminin en plus qui se suicide pas. Fait que.
Oui.
Fait que, c'est ça. Ben, tu demandes, est-ce que ça a été difficile? Oui, c'est toujours une difficulté. Mm. Oui, on vit des refus. Moi, j'en ai vécu. Mais en même temps, pour ces deux films-là, je me suis trouvée particulièrement chanceuse et je pense que ça s'explique par le fait que le système, qui est un système comparatif, qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres films jeunesse qui étaient en compétition avec ce que je présentais. Fait que j'ai eu la chance de ça, puis je suis vraiment contente parce que je suis contente quand même d'avoir, même si les films sont un petit peu plus comédie romantique que les livres, j'ai eu la contrainte du cinéma, tu comprends? Mm-hmm. Puis c'est un peu ça que j'essaie d'amener dans mon livre, c'est de dire, tu sais, comme, on peut raconter des histoires différentes. Puis une des choses qui m'était reprochée, c'est que, justement, Aurélie, elle vit pas beaucoup d'enjeux, tu sais, qui est très normale. Mais moi, je disais, mais je veux mettre en scène une fille normale, tu sais, que sa quête, c'est dans le fond une quête d'identité, c'est une quête de trouver sa place, mais c'est pas cinématographique comme quête, tu sais. Mm-hmm. Une quête, normalement, c'est trouver un trésor, d'avoir les obstacles pour trouver ce trésor-là. Puis si tu ne trouves pas le trésor, ben il va se passer quelque chose, tu sais, la terre va exploser. Ouais. Ou voilà. Si tu ne trouves pas les boîtes, la terre va exploser.
Les maudites boîtes.
Les maudites boîtes. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, si l'enjeu, c'est je vais peut-être rater mon année, ou je vais peut-être me chicaner avec ma mère, ou tu sais, c'est des enjeux forts pour les adolescents, mais quand tu es rendu un adulte, tu ne te rends pas compte que c'est des enjeux forts, tu sais. Mm-hmm. Mais moi, je devais essayer d'expliquer en quoi c'est des enjeux forts quand tu es un adolescent, tu sais.
Ouais.
Donc,
c'est très complet, puis... J'envoie le message, je ne sais pas si ça va se rendre, mais éléphant, mettez Nuit de noces, mettez-les ces films-là.
Oui, mettez-les sur Netflix ou sur iTunes, qu'on puisse le louer.
Quoi, partout. Ben oui, c'est ça. Puis, moi, c'est, des fois, ça me tente de revoir des films comme L'homme idéal. Je n'ai pas vu ça depuis,
oui!
depuis 20 ans. Je l'avais en VHS, ma soeur le regardait souvent. Puis, c'était drôle. Je me rappelle, c'était pas le meilleur film, mais c'était... C'était bien foutu, tu sais, c'était pas...
Oui, ou lui, Louis XIX. Moi,
peut-être que... Ah, mon... Ouais, mais ça... mon Dieu, on s'en reparlera de Louis XIX.
Mais, tu sais, quand on regarde, mettons, sur iTunes, il y en a des films québécois. Tu sais, j'ai été capable de louer, pendant le temps des fêtes, dans mon festival de films de Noël, j'ai été capable de louer Nez Rouge.
Ouais.
Mais... c'est ça. C'est très limité le nombre de films québécois qu'on peut louer sur iTunes. Puis, tu sais, moi, j'aimerais vraiment ça. Tu sais, ça me dérangerait pas, là, de... Tu sais, je veux pas l'avoir gratuit nécessairement sur Netflix. Là. Ça me dérange pas de payer pour. Ou même sur Illico, tu sais. C'est n'importe où, j'aimerais ça pouvoir le louer.
Ouais. Ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission India. On va devoir conclure là-dessus.
C'est quasiment 2 heures qu'on a parlé.
À peu près, ouais, c'est ça, à peu près 1h30, 1h40, je pense. mais j'ai tout aimé. Merci.
Moi aussi, j'ai aimé ça de discuter avec toi.
Ton ouverture, merci pour tes réflexions que tu amènes. Elles sont vraiment le fun. Je trouve ça le fun que tes lectrices, tes lecteurs puissent être fan de quelqu'un comme toi parce que justement, t'es ouverte et t'es accessible. Fait que je trouve ça vraiment cool que des jeunes, et ben sont sûrement moins jeunes aujourd'hui, celles qui ont commencé à lire Aurélie Laflamme à l'époque où c'est sorti, mais t'es un modèle inspirant, je trouve, pour ces jeunes-là.
Fait que, c'est donc bien fin, merci, ça me touche.
Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut te lire, si on veut voir ce qui
s'en vient... Just Google it!
Google.com/IndiaDesJardins. Parfait. Ben écoute, c'est très complet. Là-dessus, mon nom est Guy Saint-Cyr et avec India Desjardins, on a jasé de films.